Ce soir, nous recevons Frédéric Octeau. Frédéric Octeau est juriste et socio-criminologue. Il est spécialiste des questions de déviance et des institutions de régulation, comme par exemple la police ou l'armée. Il est chargé de recherche au CNRS, au groupe d'analyse des politiques publiques, et mis à disposition du ministère de l'Intérieur à l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, où il dirige le département de la recherche. Il est rédacteur en chef des cahiers de la sécurité intérieure qui sont publiés 4 fois par an. En plus de nombreux articles qu'il a écrits à la fois dans les revues spécialisées ou plus grand public, il a notamment publié 3 ouvrages. Le premier est « Vigilance et sécurité dans les grandes surfaces » qui a été publié chez l'Harmattan en 1995. Le second est « Les défis de la sécurité privée » publié chez l'Harmattan en 1997. Et le dernier, « Évaluer la police de proximité » point d'interrogation, problématique, concept et méthode, publié en 1998 à la documentation française. Frédéric Octeau, je vous cède donc la parole pour 50 minutes, après quoi suivra un débat de 20 minutes. Je vous remercie.
Merci. Je vais traiter donc des modalités et besoins de protection contemporains. Dans nos sociétés sécularisées, la protection contre les infortunes du sort, autrement dit la protection des personnes, des biens et de l'information, est devenue un besoin quasi obsessionnel et considéré comme le premier des droits. C'est qu'au cours de l'histoire où l'on est passé de l'état gendarme à l'état providence, les différentes instances de socialisation productrices d'ordre social et de régulation des désordres, la famille, l'école, le travail, etc., on finit par être placé sous la dépendance ultime de l'État protecteur. L'État n'intervient en effet qu'en dernier ressort comme instance de sanction coercitive, mais aussi comme instance de prévention des risques, par le biais du contrôle des fonctionnements assurantiels en réparation des dommages. Les polices publiques, civiles et militaires, ont historiquement réussi, quant à elles, à s'imposer comme les seules agences de régulation ou de canalisation des désordres publics, après avoir anéanti les régulations communautaires micro-locales des temps anciens, où le clergé séculier joue un rôle prépondérant. Qu'il s'agisse de la protection du territoire national contre les menaces extérieures, du renseignement contre les menaces de subversion intérieure, de la gestion de l'ordre public contre les violences à caractère idéologique et politique, ou de la police judiciaire contre les crimes et les délits, ces différents attributs monopolisés n'ont plus vraiment été contestés dans la seconde moitié du XXe siècle. Mais il n'en va pas de même de la défense de la paix publique au quotidien, théoriquement assurée par une police d'îlotage dans le monde urbain. Cette fonction majeure de la police apparaît aujourd'hui en crise et la sûreté urbaine demande à être repensée à la lumière des mutations importantes affectant les modes de vie contemporains. S'agissant ici pour moi d'évoquer la protection des personnes, des biens et de l'information, je traiterai de 3 phénomènes problématiques suscitant des interrogations pour l'avenir de l'action publique. J'interrogerai le contexte actuel où les valeurs de sécurité-protection ont aujourd'hui pris le pas sur les valeurs de liberté, alors qu'il n'y a pas encore 30 ans, ces valeurs étaient largement déconnectées chez la population en majorité, au point de passer pour antinomique. Et je montrerai comment les pouvoirs publics, après maint tâtonnement, mettent leurs espoirs aujourd'hui dans une nouvelle pensée et action de la police dite de proximité. Que signifie cette volonté des pouvoirs publics d'adapter la police aux besoins de sécurité des populations et des organisations, à défaut d'obtenir l'adhésion des citoyens à leur police ? Et quels sont les moyens mis en œuvre pour y parvenir? Je m'interrogerai ensuite sur les raisons pour lesquelles les ressources du secteur marchand de la protection des personnes, des biens et de l'information ont pris une emprise croissante dans nos sociétés, ce processus allant même jusqu'à affecter le fonctionnement des organisations policières traditionnelles, de plus en plus obligées de composer avec une logique du consommateur-client de protection. Je me demanderai enfin comment l'apparition des technologies de surveillance à distance provoque une altération des frontières entre le privé et le public. Comment les opérateurs développent de nouvelles modalités d'action à l'égard de populations dites à risque autant dans les différents pans de la vie urbaine que dans les actes de la vie privée. Et pour contrer les usages potentiellement menaçants de ces techniques censées procurer de la sécurité, je montrerai comment se conçoivent diverses stratégies de lutte et comment on doit et on peut mobiliser les ressources du droit pour défendre une certaine conception des libertés. Le sujet étant introduit, j'en viens directement à mon premier point que j'ai intitulé « Les dilemmes de la police de proximité ». La fonction de sûreté ou de tranquillité publique assurée par l'État est entrée en crise durable de légitimité alors que les fonctions, comme je l'ai dit, de police de souveraineté, de police criminelle ou judiciaire, y compris de celle du renseignement, restent peu problématiques et ne sont pas véritablement mises en cause dans leur ensemble. Un rapide coup de projecteur sur l'histoire contemporaine peut aider à comprendre le sens de cette crise. C'est à peu près dans les deux dernières décennies du XIXe siècle que se stabilise le processus de maîtrise par les pouvoirs publics, de l'espace public, d'où sont finalement délogées les populations pour qui la rue constituait jadis largement le seul espace de vie. La police d'État incarne alors une police de sécurité de l'espace public, tandis que le prolétariat urbain est progressivement éduqué au respect de la propriété privée, de la morale sexuelle et de la proscription de la violence interpersonnelle. En se laïcisant et en se républicanisant comme corps civil, la police publique tente patiemment de rejoindre son idéal proclamé en 1789, à savoir une force instituée pour la garantie de tous et non, dit l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, pour l'usage de ceux à qui elle est confiée. Alors que cet idéal paraît ne plus souffrir de contestations historiques majeures deux siècles plus tard, le regard sociologique actuel sur les modalités de tranquillisation des personnes et de protection de leurs biens par la prévention et la répression policière montre une large remise en cause de cet idéal. Plus précisément, les techniques de promotion de la sécurité publique paraissent de moins en moins adaptées aux mutations de la société moderne depuis ces 20 dernières années. Ces mutations sont surtout liées à des phénomènes de déconnexion croissante entre l'habitat, le lieu de travail et de loisirs, d'où une diminution importante des possibilités d'autosurveillance du voisinage, un relâchement des liens de proximité spatiale dans les milieux urbains, et, se cumulant à ces deux phénomènes structurels, une baisse générale de la pression normative sur la société. Face à ces mutations, l'État a beaucoup de mal à relever seul le déficit de sécurité engendré par ces phénomènes, insécurités et demandes de protection tous azimuts se cristallisant chez des fractions de population de plus en plus larges, celles notamment qui sont fragilisées dans leur protection sociale, anxieuses de leur retraite, désaffiliées du travail et reléguées aux périphéries des villes. Du coup, les fonctions du travail policier et judiciaire de prévention sont devenues éminemment sujettes à politisation. La politisation du thème de la sécurité des personnes et des biens est liée à un profond changement dans les systèmes d'allégeance. Des pans entiers de la population en arrivent à demander des comptes aux gouvernants qui sont tenus pour responsables des succès ou des échecs policiers, alors qu'auparavant, l'obéissance aux polices était plutôt de mise, sans réelle interrogation sur les résultats policiers dans la restauration de la sécurité. L'autorité de l'état de sécurité, risquant d'être durablement ébranlée, des changements notables apparaissent au sujet des politiques publiques de sécurité, dans la mise en œuvre notamment d'une sécurité publique coproduite entre policiers et nouveaux agents de régulation de l'ordre en public, dira-t-on, sur des territoires ciblés. Depuis 20 ans, face aux quartiers en difficulté, on a vu l'État osciller entre des politiques spécifiques et des politiques globales pour améliorer la sécurité, tout en essayant d'enrayer les effets de l'affaiblissement de la cohésion sociale et du lien civil qui en constitue la manifestation majeure. Sur ce point, On a pu déceler dans la recherche d'identité de rechange et des pratiques culturelles s'ignorant les unes les autres parmi les populations en présence, l'indicateur d'une crise durable du modèle historique d'intégration républicaine reposant sur la nation. En dépit de phénomènes de montée de racisme discriminateur dans le monde du travail, dans le monde de la police, dans l'accès au logement et surtout dans les espaces urbains, on a constaté l'émergence de mouvements sociétaux faiblement institutionnalisés visant à lutter contre toutes ces dérives. S'instaure alors un véritable apprentissage de la maintenance sociale, comme on dit certains sociologues, avec l'intention de favoriser l'intégration tout en essayant de pacifier les tensions sociales à caractère interethnique et interculturel, à prévenir la montée des comportements incivils, par la mise sur pied de régulateurs urbains sur des territoires très localisés, dans les établissements scolaires, les centres commerciaux, l'habitat social, les réseaux de transport public, qui ont pour nom médiateurs culturels, interculturels, femmes relais, agents d'ambiance, correspondants de nuit, médiateurs de quartier, grands frères, etc. etc. On a dénombré jusqu'à plus de 60 dénominations spécifiques. Toutefois, ces stratégies de conciliation, de médiation et d'arbitrage ne parviennent pas vraiment à s'institutionnaliser, car la suspicion demeure toujours vive quant aux possibles dérives communautaristes de leurs pratiques. Perte de neutralité par rapport aux valeurs universalistes de la République, ou risque de clientélisme et de caïda, recherche d'une notoriété locale des médiateurs au détriment de l'intérêt public. La faible institutionnalisation de ces nouveaux agents de régulation auprès de populations difficiles est surtout liée à la précarité de contrats temporaires modifiés en permanence non seulement par les autorités, mais aussi très souvent désertés par leurs bénéficiaires. Il faut néanmoins accorder un plus à la valeur de l'échange de services et de la réciprocité dans ces modalités de prise en charge des problèmes urbains, au-delà des simples questions de gestion de la peur liées à l'insécurité ambiante. Beaucoup d'indices montrent en effet de l'inventivité et de la civilité dans les pratiques sociales alternatives à la répression pour enrayer la désespérance liée à l'épuisement des formes de solidarité de l'État-providence. L'évaluation de l'impact de ces tentatives de prévention nouvelle manière au plus près de populations en difficulté demeure encore rudimentaire, mais il est certain que les agents concernés jouent pour l'heure un rôle important dans la diminution de la tension sociale sur ces territoires perturbés. Pardon. Il n'en resta pas moins que ces nouveaux métiers restent traversés de part en part par une ligne de clivage majeure, les vouant tantôt à des fonctions de régulation répressive, tantôt à des fonctions de régulation éducative ou à connotation de travail social. D'ailleurs, on peut lire la traduction institutionnelle de ces nouvelles pratiques de protection sociale dans les emplois jeunes à travers la création de ce qu'on appelle les ADS, les adjoints de sécurité, au sein de la police nationale, on pourrait dire de pâles répliques de gardiens de la paix auxiliaires, ou dans la création de ce qu'on appelle en France les ALMS, les agents locaux de médiation sociale, dont on pourrait dire qu'ils sont des pâles répliques de travailleurs sociaux embauchés au sein de contrats locaux de sécurité par les municipalités, les établissements scolaires ou les bailleurs sociaux. Bref, on joue sur deux tableaux. Insérer par le travail une fraction de la jeunesse en marge en lui offrant un travail de régulation de ses semblables, étant entendu que les valeurs de sécurité sont à la hausse. Et l'on donne par ailleurs à la police publique une nouvelle doctrine d'emploi en baptisant policiers de proximité d'anciens îlotiers que l'on rend polyvalents, à la fois préventeurs et répressifs, au sein de dispositifs contractuels à l'échelon local où le préfet, le maire et l'élu sont censés répondre collectivement aux besoins locaux de sécurité. Cependant, la résistance policière demeure très forte à ces nouvelles pratiques. Les blocages propres à l'institution expliquent d'ailleurs en bonne part la difficile mise en place des actions publiques de proximité. Ces blocages sont structurels. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en rompant tout lien entre police et quartier des villes, le processus d'étatisation de la police dans les agglomérations supérieures à 10 000 habitants, amorcé dès 1941 sous Vichy et pérennisé par la suite, a cassé une bonne part des ressorts de son efficacité en zone urbaine, en éloignant de son public une police devenue motorisée et purement réactive. Il est donc difficile à l'institution d'aller à contre-courant de ce phénomène, c'est-à-dire de reterritorialiser la police sur des quartiers les plus problématiques quand elle a appris à fonctionner selon d'autres logiques d'intervention que celle d'une immersion communautaire quotidienne. Mais il existe également des blocages culturels propres à la défense de l'identité du corps de la police. Les gratifications professionnelles liées aux pratiques de prévention par ilotage sont bien moins valorisées par l'institution que les missions liées à la recherche ou à l'arrestation des délinquants en flagrant délit ou aux opérations de maintien de l'ordre réussies. Il faut dire que les actions de prévention de l'insécurité ne se mesurent pas aussi aisément que le calcul de l'écart relatif entre le nombre de plaintes de victimes et le nombre d'affaires élucidées par l'arrestation de l'auteur sur tel ou tel contentieux. Mais il y a enfin un blocage organisationnel. Car en dépit de politiques publiques qui valorisent aujourd'hui de plus en plus l'action, les actions de proximité, et cela ne touche évidemment pas que la police, hein, la justice et d'autres services publics sont touchés, de la base à son sommet, la police ne renonce pas facilement à déterminer par elle-même ses tâches, ni ne se laisse dicter facilement par des relais locaux de la société légitime la gestion des risques dont elle devrait s'occuper prioritairement. L'institution tient trop à ses propres lectures en termes de criminalisation des fauteurs de violences urbaines, comme on les a vus apparaître dans les années 90 par exemple, pour apprendre à lire l'insécurité comme constituée d'une multitude de problèmes sociaux à solutionner, on dit dans les contextes anglo-saxons une mission de problem solving, en partenariat avec d'autres régulateurs de la société civile. Les dispositifs de partenariat ne fonctionnent de ce point de vue que si la police est convaincue de maîtriser le territoire urbain sur ses autres partenaires. Au fond, en dépit de l'actuelle idéologie des 3P, qui est résumée dans les trois mots prévention, proximité, partenariat, le dilemme fondamental reste posé à la police publique. S'agit-il de donner prioritairement satisfaction aux besoins de sécurité-protection des citoyens et lesquels ? L'enjeu, évidemment, est de savoir qui définit ces besoins et jusqu'à quel point ces définitions sont négociées avec la police. Ou s'agit-il plutôt de mobiliser des agents de régulation de la société civile, tels que je les ai dépeints tout à l'heure, des porte-paroles de la société, mais de quel groupe de citoyens composant cette société, au service de priorités définies par l'institution policière elle-même, de façon à la conforter dans sa croyance qu'elle reste bien le seul maître du jeu, in fine. Ce dilemme, qui n'est pas simple à régler, s'inscrit par ailleurs dans un contexte qui favorise de nouvelles inégalités entre des victimes qui ont la capacité de s'organiser par rapport à des victimes démunies. Ce contexte lié à la maîtrise des ressources marchandes de la protection qui ont fait une percée fulgurante dans le paysage de la régulation contemporaine depuis une vingtaine d'années. Et j'en arrive à évoquer mon second point, qui est celui de l'emprise de la sécurité-protection comme ressource marchande. Comment expliquer le décollage du secteur industriel et marchand de la sécurité et comprendre sa progressive légitimation par les pouvoirs publics ? Confiné pendant longtemps à la mise en place de la sécurité dans l'ordre intérieur des entreprises privées et publiques, il s'agissait de prévenir des risques d'accidents du travail, d'incendies, de pannes techniques, etc. La protection contre ces risques techniques s'est à ce point diversifiée jusqu'aux actes malveillants que les chiffres d'affaires dégagés ont été décuplés au cours des 20 dernières années. Fort de plus de 100 000 agents, le nombre des entreprises prestataires de services de protection a triplé entre 81 et 95, ainsi que leur chiffre d'affaires. Par le biais d'un effet croissant d'externalisation des services de surveillance interne aux entreprises vers des entreprises de services spécialisés, le phénomène le plus spectaculaire auquel on a assisté est celui de la diversification des outils et de la concentration européenne des entreprises. À côté du gardiennage traditionnel, la télésurveillance a accru son emprise. Le recours à la vidéosurveillance est devenu un outil autant utilisé par les entreprises recevant du public que par un nombre croissant de communes qui couplent ces prestations à celles de leur police municipale ou qui utilisent d'autant plus volontiers ces techniques que ces municipalités ne disposent pas encore d'agents municipaux assurant la sécurité de leur commune. La télésurveillance maille le territoire de plus en plus finement en offrant des ressources importantes aux entreprises de transport et aux bailleurs sociaux, tout autant qu'à des clientèles de particuliers aisés, quoique pour des objectifs de sécurité différents. Les chiffres d'affaires sur le créneau des équipements du contrôle d'accès ont doublé entre 91 et 96, de même que ceux de la télésurveillance ou de la vidéosurveillance. Si la participation populaire des citoyens à la surveillance de leurs biens au sein de patrouilles de voisinage n'a quant à elle jamais bien fonctionné sur notre continent, à tort ou à raison, ce qu'on appelle en Angleterre les Neighbor Watch britanniques n'ont jamais pris le pas sur notre continent, le bien fondé de la lutte active des entreprises et des particuliers contre la montée des prédations et de l'insécurité s'est trouvé légitimé par une philosophie d'action importée d'outre-Atlantique, dite de l'espace défendable, incarnée par un théoricien qui s'appelle Oscar Newman aux États-Unis et en Angleterre par Alice Coleman, et une théorie dite de la prévention situationnelle, dont le héros américain est un criminologue nommé Ronald Clark. Cette philosophie consiste à agir sur des sites géographiques particuliers ou des entités plus spécifiques à ces espaces, en protégeant les cibles vulnérables aux actes malveillants, les fraudes, les prédations diverses, et à passer sous silence complètement la réflexion sur les facteurs sociaux de la délinquance au profit de la seule mise au point de stratégies de protection des victimes contre des acteurs prédateurs. Ce référentiel de la protection par la dissuasion du délinquant malveillant, sujet rationnel calculant coûts et bénéfices de son passage à l'acte, a largement influencé, au cours des années 90, la conceptualisation des questions de sécurité intérieure, locale autant que nationale, et constitué, on le comprend aisément, un vecteur puissant de légitimation des industriels, vendeurs et installateurs de services de protection. Il a détrôné largement les objectifs traditionnels de la prévention sociale des années 80. La banalisation de la sécurité privée en tant que bien à péage et dans sa seule composante de prévention anti-malveillance a également été rendue possible par la conjonction de deux phénomènes complémentaires d'ordre professionnel et étatique. Le premier, les prestataires de services en position dominante dans le marché ont mobilisé une bonne part de leur énergie pour convaincre les pouvoirs publics à l'écoute d'une police nationale au départ largement hostile à leurs intérêts, que leurs activités devaient être contrôlées et légalisées de façon à faire de leurs agents des auxiliaires de la police, alors qu'en réalité, la loyauté première des agents privés, de la sécurité privée, s'exerce à l'égard des clients qui paient en espèces sonnantes et trébuchantes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une bonne part de la clientèle du secteur privé est constituée d'établissements publics, ce qui boucle la boucle. De leur côté, les administrations préfectorales ont été chargées de moraliser et d'assainir les activités de la sécurité privée, le convoyage de fonds, la surveillance, les gardes du corps. Les rapports difficiles qui opposaient les télésurveilleurs et les policiers à propos du problème de l'intervention sur des alarmes intempestives à distance ont été également normalisés. Enfin, une loi d'orientation et de programmation sur la sécurité a consacré, au milieu des années 90, les activités de gardiennage, de vidéosurveillance, d'audit et de conseil en risque management en architecture et urbanisme, comme autant d'activités coproduisant la sécurité collective. Les pouvoirs publics sont même allés beaucoup plus loin dans le processus de reconnaissance des services du secteur privé, puisqu'ils ont imposé à certaines entreprises et commerces considérés comme trop vulnérables aux actes prédateurs le devoir et l'obligation de recourir à des équipements de protection privée sous peine d'engager leurs propres responsabilités. C'est le cas pour les banques, les pharmacies, les commerces, les garages publics, les lieux de manifestations culturelles et sportives, etc. Il ne serait pas pour autant suffisant d'en rester au constat d'une certaine normalisation juridique des rôles respectifs des agents de protection publique et privée. En effet, cette répartition des rôles entre les agents oblige les pouvoirs publics à de nouveaux apprentissages managériaux au sujet des diverses ressources de régulation qui brouillent de plus en plus la donne initiale. Dans le même temps, en effet, sous cette période où il s'est passé tant de mutations en 20 années, on voit les technologies électroniques de protection et de contrôle de l'information se sophistiquer de plus en plus au point d'altérer les frontières de la sphère publique et privée parce que, tout simplement, l'information est devenue à la fois une liberté et un produit dont la mise, dont la maîtrise et la protection sont de moins en moins monopolisables et monopolisées par une source unique du pouvoir. J'en arrive donc à mon troisième point, qui est sécurité et liberté de l'information, les nouveaux défis de l'avenir. Jusqu'à présent, je n'ai en effet évoqué que des manifestations de la protection circonscrites à des frontières très localisées, quels que soient les différents périmètres socio-administratifs couverts par la sécurité dans le monde urbain. Mais les pratiques de surveillance à distance, permises par les technologies de l'information et de la communication, posent aujourd'hui de nouveaux défis à la gestion de l'ordre, puisqu'elles ne connaissent plus de frontières géographiques. Je vous montrerai comment se présentent les utilisations sécuritaires des technologies de l'information et de la communication par les polices publiques, les polices de renseignement, les polices judiciaires, polices administratives, et par les agences privées, les agences d'enquête, de surveillance des biens, de personnes et de l'information, y compris les usages de ces technologies par les particuliers auto-surveillés volontaires. Je déboucherai ensuite sur l'analyse des risques d'atteinte aux libertés suscité par la croissance de ces techniques, et m'interrogerai enfin sur les modalités pratiques d'une nouvelle défense de ces libertés par rapport à ce défi des technologies versant sécuritaire. Les technologies d'information et de communication fonctionnent largement aujourd'hui comme des prothèses sociales pour de multiples raisons. La nécessité de lutter localement contre la montée de l'individualisme qui génère de l'isolement, de lutter contre le vieillissement d'une population de plus en plus dépendante, ce qu'on appelle la téléassistante médicale, le télédiagnostic, de lutter contre les embarras de la circulation urbaine. Le télétravail, le téléenseignement contribuent à diminuer les déplacements physiques. La nécessité de s'adapter à l'habitat intelligent via l'émergence de la domotique individuelle ou de vivre dans des habitats collectifs dotés de systèmes intégrés de télégestion de l'énergie, de téléinformatique, sur lesquels viennent se greffer désormais de la télédétection, qui est le contrôle et la surveillance des anomalies diverses et des renvois d'alarme, et la télésécurité, qui est le contrôle et la surveillance des biens et des personnes couplées aux interventions physiques des surveilleurs professionnels. Toutes ces technologies liées à la gestion des flux enregistrent des données sur les modes de vie des individus. Et la question se pose de savoir dans quel but sont utilisées ces milliards d'informations, c'est-à-dire de savoir comment caractériser les usages de ces techniques à partir de ce qu'elles recueillent et de ce qu'elles divulguent. Pensons d'abord aux usages de l'information constituée par les fichiers. Les polices publiques constituent non seulement des fichiers de population pénale ou administrative, personnes recherchées ou disparues, mais également des fichiers d'interdits de séjour, d'expulsés, de refoulés, de déboutés du droit d'asile, etc. Et pour les autres organisations privées, de fichiers théoriquement non nominatifs. Pensons ensuite aux usages de l'information transactionnelle liée à la croissance de l'utilisation des cartes à mémoire et de l'information de retour délivrée sur des supports numérisés. Pensons encore aux usages de l'information constituée par des traces, traces laissées par l'enregistrement d'éléments identifiant les personnes, avec d'autant plus de facilité désormais que les technologies dites à main libre permettent dans certains cas à l'usager de ne même plus avoir besoin de présenter de cartes à mémoire pour être identifié par un système quelconque. Pensons enfin aux usages des moyens d'identification par les capteurs utilisés par la télésurveillance, d'autant plus performants quand ils sont couplés à des caméras vidéo, c'est ce qu'on appelle la télévidéosurveillance, qui enrichissent la transparence des individus à partir de leur image mouvante. Vous avez une technique aujourd'hui qu'on appelle le morphing, qui est capable de reconstruire un scénario à partir de fragments numérisés sur un individu se déplaçant dans une foule. On le voit, toutes ces techniques de repérage et d'identification des individus constituent des innovations importantes, mais évidemment aussi un potentiel décuplé de menaces aux libertés individuelles. Le défi d'aujourd'hui tient en un combat initié par des citoyens s'inquiétant d'usages oppressifs du recueil de l'information tous azimuts. Ce combat vise à combler un réel déficit démocratique dont l'enjeu serait de parvenir à mieux contrôler les modalités par lesquelles les polices publiques ou les opérateurs privés utilisent les techniques de surveillance et de contrôle à distance. Il y va de l'exercice d'une critique sociale concernant le caractère de la demande collective de protection, non pas contre des menaces d'intrusion physique indésirable dans les domiciles, mais contre des menaces de pénétration de tous dans les communications de tous, ce qui nous achemine vers une servitude volontaire, puisque nous voulons à la fois la transparence absolue sur ce qui se passe dans l'espace public et la certitude de la liberté du secret absolu des communications au sein de l'espace virtuel de l'Internet, par exemple. Si le terme de protection de la vie privée contre l'emprise des technologies de sécurité a encore un sens, dans la mesure où cette trop forte emprise serait susceptible de se tourner contre une certaine conception de notre liberté, pourquoi et comment défendre cette liberté? Les défenseurs de ces libertés ne trouveront pas vraiment d'alliés parmi des populations confiantes dans les ressources de la protection de leur domicile, auto-surveillés volontaires, prêts à vouloir vivre dans des bulles de sécurité ou des ghettos de luxe totalement sécurisés, tels qu'on les voit apparaître un peu partout dans le monde, et notamment à Los Angeles, dans les gated communities. Sans nous attarder sur la caricature de ces villes privatisées, entièrement sécurisées, où entendent vivre des populations socialement homogénéisées, on peut néanmoins imaginer que ceux qui adhèrent simplement aux vertus de la domotique et de toutes les technologies de pointe, se présentant comme facilitant la vie quotidienne, téléassistance par exemple, resteront peu critiques sur les composantes de ces techniques pouvant se retourner contre leur liberté. Des études examinant les usages de la vidéosurveillance par les habitants d'espaces résidentiels suggèrent parfois des modifications des rapports à l'espace, mais les vidéos surveillées résonnent rarement en termes de menaces à leur liberté individuelle, car les pratiques d'autoprotection restent orientées vers l'extérieur, contre l'intrusion indésirable, plutôt que vers l'intérieur de la collectivité résidente. Je parle d'autosurveillance de voisinage. Elles ont surtout montré, ces études, que le secret de la réussite d'une protection d'un immeuble télésurveillé était lié, en réalité, à une bonne articulation entre l'espace privé, l'appartement du propriétaire ou du locataire, les espaces semi-publics de l'immeuble et l'environnement public urbain, ce qui suppose une dynamique interactive entre des relations de voisinage fortes, des relations de proximité avec l'institution logeuse et de bonnes relations avec les services urbains privés et publics. cette figure de co-veillance ou de surveillance partagée, qui pourrait être admissible, constitue néanmoins un cas de figure plutôt rare. Car ce que suggère aujourd'hui la plupart des études qui analysent les innombrables dispositifs de surveillance à distance est plutôt une impression de fausse sécurité liée à une mauvaise articulation entre télésurveilleurs et forces d'intervention légitimes sur place, police, pompiers, etc., en cas d'intrusion indésirable ou de conflit entre résidents liés à des attroupements indus au pied des cages d'escalier, par exemple. Les militants de la liberté, nécessairement des minorités actives, ne peuvent s'appuyer que sur des fractions de population préoccupées, non pas par le spectre de Big Brother, mais bien plutôt par ce que un sociologue comme Michaelis Llanos a appelé les usages périoptiques, micro-localisés, des Little Brothers de la télésurveillance dans tous les espaces privés recevant du public où se pressent les foules sentimentales. Qui sont-ils, ces militants en alerte ? Eh bien, des minorités actives par défection, des minorités actives par conviction, voire par provocation, et d'autres, enfin, pour qui l'activation du droit par le plus faible peut s'avérer une arme parfois efficace quand elle se retourne à bon escient contre le plus fort. Des minorités par défection, donc, constituées de citoyens surinformés qui se tiennent volontairement à l'écart de ces technologies, cherchant à ne pas donner prise à des informations personnelles susceptibles d'être connectées à leur insu. Si ces combats sont méritoires, leur approche catastrophiste me paraît néanmoins faire figure d'arrière-garde, car il est impossible désormais aujourd'hui de vivre dans des refuges où l'on pourrait être soustrait à l'œil des caméras ou des capteurs et être sûr de ne jamais figurer dans un fichier anonyme constitué virtuellement par telle ou telle trace de votre activité sociale. Des minorités actives par conviction libertaire. Cette autre minorité de citoyens surinformés, pénétrée de la croyance au mythe de la démocratie informatique mondiale, n'hésite pas, bien souvent, à se placer sur un terrain identique à celui des polices, considérant par exemple le cryptage absolu de leurs propres communications et transactions sur des réseaux comme Internet comme un acte de résistance essentiel contre les monopoles que s'arrogeraient les États sur le contrôle des réseaux pour conjurer le spectre de nouvelles menaces liées à la cybercriminalité par exemple. Ils entendent jouir d'une liberté de communication maximale et sont prêts à tout pour défier symboliquement la sollicitude des États qui prétendent préserver les citoyens contre eux-mêmes, selon une vieille idéologie recyclée des usages intempestifs de leur liberté par des citoyens considérés comme incapables de s'autogouverner. Ces deux types de comportements intransigeants amènent à des excès tels que finalement ils contribuent bien souvent, me semble-t-il, à faire advenir une plus grande curiosité des États sur leur propre agissement. La majorité légaliste entend plutôt assurer, quant à elle, la crédibilité de son combat dans l'arène politique, publique. Ses partisans n'ont guère à leur disposition que les armes du droit à retourner contre les excès policiers et les excès des groupes extrémistes. Leur arme est alors d'opérer d'inlassables vérifications sur les utilisations policières abusives de ces techniques, même s'il s'agit d'une lutte s'apparentant à celle du pot de terre contre celle du pot de fer. Lorsque le juriste avocat recherche dans les législations internes des États membres ou dans la législation européenne ce que dit le droit des technologies de sécurité basées sur l'information et la communication, il n'a guère d'autres atouts que de se prononcer sur ce que le droit interdit de faire. Il aura beau défendre l'interdiction de constituer des fichiers sur les opinions des salariés ou autres, de rappeler le caractère illégal de la surveillance à distance dans des locaux privatifs tels que les vestiaires d'entreprise, par exemple, de rappeler l'obligation d'informer les usagers de leur droit de regard sur l'enregistrement des images analogiques ou numériques dans les espaces privés recevant du public et les lieux publics, ces avancées sur le plan des libertés qui ne sont pas négligeables et qui ont été arrachées de hautes luttes restent de peu de poids, car ce droit ne donne des armes utilisables que ex post, évidemment, permettant seulement de vérifier que les dispositifs de sécurité ont été détournés ou transformés avec la visée explicite de la part de leurs opérateurs de porter volontairement atteinte à la vie privée, alors que cette possibilité est désormais virtuellement contenue dans le simple fait de l'utilisation et du recueil quotidien et systématique d'un stock d'informations des plus variées et en apparence les moins sécuritaires qui soient. Que reste-t-il alors aux défenseurs légalistes de la liberté face aux usages potentiellement abusifs du recueil de l'information par ces puissants opérateurs? Une seule chose, exiger au moins un renversement systématique de la charge du fardeau de la preuve lors d'un conflit touchant aux libertés fondamentales de la part de toute personne suspectée. Jusqu'à présent, c'est toujours à la victime d'un contrôle abusif d'apporter la preuve de sa bonne foi. Elle doit se battre contre de l'information connectée à son insu, dont la conséquence la plus visible aura pu être sa mise à l'écart au titre d'une prestation ou d'une créance quelconque, voire son exclusion ou inclusion dans une catégorie de population à risque, entre guillemets, dont elle ne connaîtrait même pas les critères d'appartenance. Elle ne peut que se plaindre, à titre individuel, d'avoir été l'objet d'un fichage de données concernant certains aspects de sa vie privée et exploitée dans un but sécuritaire, la plaçant dans la catégorie des personnes suspectes de quelque chose. Comme chez Franz Kafka, on ne sait pas toujours de quoi. Il faut bien prendre conscience des nouveaux clivages introduits par les technologies de sécurité parmi des cibles discriminées entre elles au gré des besoins de savoir de plus en plus sophistiqués des polices publiques et privées. L'invention jurisprudentielle d'un principe de proportionnalité supposé rétablir l'équilibre sociologique constitué par le rapport inégalitaire engendré par la faiblesse des individus atomisés et la force des opérateurs publics et privés manipulant ces techniques est un principe général du droit international très intéressant. Il devrait constituer une arme systématiquement invoquée pour permettre ce renversement du fardeau de la preuve. Mais la récente directive européenne relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à leur libre circulation est hélas fort éloignée de cet idéal. On sait que cette directive a fait entrer dans son champ d'application les traitements de données à caractère personnel, informatisés ou détenus dans un fichier manuel, et qu'elle s'applique également aux données constituées par la voix et l'image des vidéos. Mais elle reste entravée ou paralysée dans tous les cas où on lui oppose aussi les traitements mis en œuvre à des fins, dit le texte, ouvrez les guillemets, de sécurité publique, de défense, de sûreté de l'État, ou pour des activités de l'État relatives à des domaines de droit pénal, fermez les guillemets, ajoute la directive. Autant dire quasiment jamais, puisque ces finalités, définies de façon régalienne par les opérateurs publics eux-mêmes, seront toujours invoquées en dernier ressort au nom de la raison d'État. Au moins, cela doit-il nous rendre confiants à l'égard de notre bon vieux Big Brother, dans un moment où nombre de sociologues de la postmodernité nous prédisent ou nous prophétisent un déclin des polices d'État face à l'émergence d'une société des risques. J'en finirai par là en vous disant que tout cela démontre finalement une banalité à laquelle personne ne devrait pourtant se résoudre. Si la raison d'État invoquant la sécurité-protection l'emporte sur la raison démocratique invoquant la liberté, c'est probablement parce que la plupart des citoyens européens ont jusqu'à présent accepté le principe d'une limitation de leur liberté dans un sens particulièrement restrictif. La confiance dans les institutions répressives n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. C'est sans doute aussi parce que les citoyens se sont facilement laissés persuader de l'existence de menaces plus terrifiantes encore que les ressources fabuleuses dont les États disposent aujourd'hui pour les contrer. En fait, parce que les frontières de la régulation publique et de la régulation privée, jadis déterminée par la défense d'espaces bien délimités, s'estompe de plus en plus aujourd'hui pour déboucher sur un brouillage très problématique de ses frontières. Ce brouillage qu'il va nous falloir désormais cerner et mieux comprendre pour en combattre le caractère oppressif, sauf à nous accommoder passivement des choses. Je vous remercie de votre attention.
J'aurais voulu vous poser une question concernant le problème de la police, puisque en fait, à mon avis, tout revient un petit peu à la confiance qu'on peut avoir dans une institution et dans la manière dont elle utilise le pouvoir dont elle dispose. Compte tenu du fait qu'il me semble, enfin, c'est peut-être un point de vue idéaliste, que on laisse énormément de pouvoir en fait à une institution comme celle-là, au lieu de mettre en avant le devoir qu'a cette institution envers la société. C'est-à-dire qu'apparemment c'est une institution qui a l'air d'être beaucoup plus au service de l'État qu'au service de la population et de la nation, et donc c'est ce qui implique une grande tolérance lorsqu'il y a des bavures, lorsqu'il y a des écarts de conduite, etc. Est-ce que le problème n'est pas de revenir d'abord à la définition même et à la manière de sélectionner en fait les gens qui composent cette institution? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on peut arriver à obtenir une certaine confiance et donc une délégation supplémentaire de pouvoir et de sécurité?
Bon, c'est une question sur les excès policiers, sur leur contrôle en quelque sorte. Le contrôle doit-il se faire par l'institution policière elle-même sur les institutions, enfin sur l'institution policière ou des institutions sur la police, ou le contrôle doit-il être exercé par les citoyens sur ce que fait la police? C'est quelque chose qui est très très difficilement tranchable. On peut opter pour les deux. Le problème, c'est que la police publique est extrêmement centralisée en France, que les contre-pouvoirs ne sont pas sociétaux, et que effectivement la police a toujours été considérée comme un instrument du pouvoir de l'État. Donc on peut penser qu'effectivement elle n'est pas très démocratique, bien qu'il y ait des contrôles internes et une déontologie qu'on essaye de mettre en œuvre, mais effectivement le regard sur cette déontologie, c'est l'institution elle-même qui la porte. Alors, vous avez raison, les tentatives qui se font jour d'une déontologie qui soit contrôlée par des tiers de confiance ou par la population civile sont innombrables depuis une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de tentatives déontologiques, mais c'est vrai qu'on achoppe toujours sur cette question, et tant que le contrôle ne sera pas plus démocratique et on n'aura pas trouvé la formule idéale pour le faire, il y aura toujours effectivement cette méfiance sur la police de la part de certaines populations qui considèrent en être les victimes en quelque sorte systématiques. Mais bon, je vous renvoie la question. C'est une lutte de tous. Soit on s'accommode de la police telle qu'elle est, soit on essaye d'en démocratiser le contrôle. Mais ce n'est pas facile, c'est évident. En tout cas, beaucoup moins facile que dans d'autres contextes que le contexte français.
Une question là, monsieur. On a beaucoup critiqué l'autorisation largement diffusée du port d'armes aux États-Unis par tout citoyen, pratiquement. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que ça augmente ou ça diminue les risques? Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que ça devrait être modulé d'une façon ou d'une autre?
Aux États-Unis, vous voulez dire?
Pardon?
Aux États-Unis, vous voulez
États-Unis.
Dire?
Aux États-Unis. Est-ce qu'il faudrait transposer ça à l'Europe? C'est-à-dire
d'accord.
Permettre aux Européens
de
s'armer chacun comme il le veut?
Et vous savez, c'est l'éternel débat de savoir si l'autodéfense de sa personne et de ses biens est considérée comme quelque chose que la Constitution vous autorise. C'est-à-dire, en fait, et c'est ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, il y a une tradition policière qui est fondamentalement différente de la nôtre pour des raisons historiques qui seraient trop longtemps d'expliciter ici. C'est un pouvoir donc reconnu par la Constitution de se défendre, donc d'être armé. Bon, on a vu les excès, donc aujourd'hui, vous avez à l'objet puissant chez les Américains que l'on n'a jamais osé affronter, hein, qui est la Ligue des défenseurs de l'arme. Bon, c'est un débat propre aux États-Unis. La question de savoir s'il faut le transposer. Alors, moi, je pourrais vous dire que je vois mal comment on pourrait le faire, même si tout d'un coup tout le monde le souhaitait pour se défendre. C'est-à-dire qu'on aurait tellement peu confiance en la police ou en la magistrature qui historiquement ont monopolisé en quelque sorte la sécurité des personnes et des biens. C'était l'idéal. Ça voudrait dire qu'ils seraient tellement efficaces que tous les citoyens pour lutter contre une insécurité seraient autorisés à prendre les armes. Ça voudrait dire qu'on irait plus que la légitime défense, qui elle est très très encadrée par le droit pénal, mais on irait vers de l'autodéfense. Et qui dit autodéfense, voyez le spectre de la justice privée. Hein, donc plus de justice publique. Je le vois mal en France. Je le vois mal. Mon opinion est que aujourd'hui, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'effectivement, il y a un besoin de sécurité. Les institutions publiques, c'est ce que j'ai essayé de dire, ne sont absolument pas délégitimées du point de vue justement de ce monopole de la protection qui est procuré théoriquement pour toutes les composantes de la société. Mais aujourd'hui, la demande est devenue tellement exponentielle et d'ailleurs assez floue, parce que quand on essaye de savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça ne veut pas forcément dire je veux plus de répression, je veux plus de carcéralité, je veux de la tolérance zéro. C'est beaucoup plus complexe que ça. Les demandes de sécurité sont très ambivalentes. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres ressources qui apparaissent dans la société qui ne sont pas que des ressources policières. Il y a les ressources de la protection marchande et puis il y a aujourd'hui des groupements de citoyens qui n'arrivent pas à prendre en France parce qu'on fait très très attention à ce qu'ils ne se constituent pas en milices armées, si vous voulez, qui vont faire leur propre justice. Alors, moi, je suis plutôt réservé sur cette affaire et plutôt contre, parce que on sait que les dérives sont beaucoup plus terrifiantes que le fait de constater simplement quelques défaillances des polices d'État.
Oui, bonsoir, monsieur. Si je vous comprends bien, les institutions privées se défendent avec des polices privées et les institutions publiques sont défendues par des polices publiques, c'est-à-dire que la banque publique est défendue par les forces de l'ordre publiques et les banques privées sont défendues par des détectives privés, par exemple.
Je n'ai pas tout à fait dit cela, parce que quand on regarde la clientèle de la sécurité privée, c'est effectivement les entreprises ou les services qui mettent en protection en fait, ceux qui ont les moyens de se protéger, en fait, de faire de la sécurité périmétrique ou volumétrique. Ce n'est pas seulement des entreprises privées, mais c'est aussi des entreprises publiques, très paradoxalement. Cela veut dire que, alors que la police conteste d'être utilisée pour faire de la garde statique contre de l'intrusion, si vous voulez, les pouvoirs publics ont été amenés à faire un calcul où ils se sont aperçus que utiliser de la surveillance privé coûtait bien moins cher aux contribuables que de mettre des policiers publics à ne rien faire comme des plantes vertes devant les établissements. Donc, et c'est en ce nom-là qu'on dit souvent qu'il y a une privatisation policière, ce qui, à mon avis, est faux, mais on ne pourrait pas généraliser ce que vous dites, c'est-à-dire le privé parce que les liens entre les agences privées de sécurité et les agences publiques sont beaucoup plus complexes qu'il y paraît, et les clients les clientèles des entreprises de protection sont naturellement majoritairement des entreprises privées, hein, que l'on pousse à se protéger, hein, par les mécanismes assurantiels bien souvent, et les pouvoirs publics poussent aussi à le faire, mais les établissements publics aussi font appel à du privé, les collectivités locales, les collectivités territoriales. Donc c'est, si vous voulez, l'emprise du commerce de la protection des physiques des sites, si vous voulez, est amenée pas seulement par des clients purement privés. Donc je serais moins caricatural que cela dans la présentation, même si on peut voir qu'il y a des phénomènes qui s'apparentent à ce que vous dites, en effet. Et en tout cas, ça pose un problème, parce que c'est juste le problème de l'inégalité qui est constituée. On a l'impression que des organisations qui sont assez puissantes peuvent se mettre en protection sans faire appel aux ressources de l'État. parce qu'elles ont les moyens de le faire, parce qu'il y a une offre de service et que finalement, les populations tout venant, elles n'ont que les ressources de la protection publique qui est là ou qui n'est pas là, quoi, dans l'espace public. Alors effectivement, il y a ce risque justement d'avoir une sécurité à deux vitesses qui se profile aujourd'hui, en effet.
Monsieur, une question là.
Oui, bonsoir. Je voulais intervenir, j'avais cru comprendre dans votre exposé une certaine critique effectivement du secteur marchand de la sécurité. En tant qu'ex-prestataire dans ce domaine et maintenant utilisateur de l'offre de la sécurité marchande sur le marché, j'appartiens à une chaîne alimentaire. Nous avons aujourd'hui des agressions dans un certain nombre de magasins et la seule ressource que nous ayons, c'est de mettre en place par le secteur marchand des moyens électroniques de détection, des moyens d'action privés parce qu'il y a une carence des forces publiques qui refusent d'intervenir sauf à avoir une quasi-certitude et encore d'offrir soit un flagrant délit, soit quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est uniquement les ressources privées qui sont à la disposition du citoyen. Et c'est vrai que plus le citoyen est élevé dans la hiérarchie, dans la détenance des biens, et plus évidemment il encourt des risques. Donc c'est normal qu'il se protège lui-même.
Je suis d'accord avec votre analyse jusqu'à un certain point. Dans les espaces privés recevant du public, comme les centres commerciaux, il est vrai que les gestionnaires de ces grandes surfaces sont poussés par les pouvoirs publics à faire appel à des technologies comme la vidéosurveillance, la télésurveillance, etc. Et alors, je n'irai pas jusqu'à dire, parce que c'est une contrainte d'assurance et c'est parce que aussi il y a de la vulnérabilité qui est extraordinairement importante. Mais, contrairement à ce que vous dites, je pense que ça ne signe pas un retrait de la présence des îlotiers publics sur ces espaces. En réalité, ce qui se passe, et je le sais d'autant mieux que j'ai beaucoup analysé ce phénomène, on s'aperçoit que la sécurité, elle est négociée. Ça veut dire que la police publique, effectivement, interviendra s'il y a un conflit ou un réel problème sur cet espace, à condition d'avoir négocié préalablement avec les agents de vigilance et les technologies de contrôle, justement, l'importance de ce conflit. Parce que si, pour le moindre conflit, on faisait intervenir la police, et on l'a vu, c'est évident qu'elle se plaint d'intervenir pour rien du tout. Donc aujourd'hui, si vous voulez, tous les opérateurs apprennent à devenir intelligents, et c'est pourquoi on parle de coproduction, ça veut dire que les premiers détecteurs des incidents sont effectivement les gestionnaires privés, et s'ils ont bien négocié avec la police publique qui, elle, est ailleurs, la nature du conflit ou les conséquences du conflit engendré, alors là, on voit des formules de coopération qui sont bien au point. Mais il est vrai, aussi bien dans les grandes surfaces que dans les... on pourra toujours trouver des exceptions, mais c'est une tendance qui apparaît, de même que dans les manifestations culturelles et sportives, vous avez le noyau qui est de la sécurité privée et qui régule les petits incidents, et dès qu'un incident commence à devenir important, c'est évident qu'il est immédiatement pris en charge par la police publique. Donc, in fine, la police publique est... Alors, ce que ça provoque, c'est que la police publique devient de plus en plus dépendante des opérateurs privés. Et ça, effectivement, c'est quelque chose de nouveau, parce que ça veut dire qu'elle est de moins en moins... Elle reste réactive, mais elle est dépendante des opérateurs privés. Elle est obligée de composer avec elle. Et c'est ça la grande nouveauté. Alors qu'avant, elle était en situation de monopole. Et là, donc, c'est des apprentissages qui se font tout un peu dans la douleur et qui demandent d'être de plus en plus normalisés, ce que j'ai essayé de montrer, ce qu'on a vu sous les années 90. Mais c'est vrai que par moment, il faut aller voir au cas par cas et ça ne se passe pas toujours très bien. Ça, c'est sûr.
Une question en haut de l'amphithéâtre, là, tout de suite, monsieur. Levez-vous, s'il vous plaît. Retrouvez le micro et levez-vous, merci.
Voilà. Donc, une question, pardon, sur le problème, en fait, du besoin de risque qui est caractéristique de certaines générations, on peut dire, ou de certains comportements dans la vie moderne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce propos? Et sur ce point, donc, je voulais savoir, par exemple, il me semble qu'il y a un peu une absence de réflexion, c'est-à-dire que quand on dit, voilà, il faut que le risque soit pratiqué, pour juste d'une manière, je dirais, fictive. On voit le, prenons l'exemple des jeux vidéo, etc. Prenons l'exemple, par exemple, de la sécurité routière, où on dit qu'il faudrait que les gens qui veulent rouler vite puissent bénéficier de circuits pour aller se défouler, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais le deuxième problème que je me pose, c'est le problème de l'homogénéisation, en fait, donc de certaines populations, comme vous l'avez évoqué, donc l'exemple des États-Unis, Los Angeles, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment une autre solution? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas une, je dirais, une vraie bonne idée là-dedans? C'est-à-dire, effectivement, l'homogénéisation d'une population, ben c'est quand même, ou en tout cas, d'une, je dirais, des modes de vie, c'est quand même, ça diminue les conflits, ça diminue les risques de... Troisième petit point, c'était simplement l'usage des techniques, des technologies. Je voulais savoir si on ne pouvait pas, en fait, les utiliser intelligemment, de manière, par exemple, à éviter une société policée avec des contrôles systématiques. Je prends l'exemple, par exemple, du métro. Bon, il y a des contrôleurs, etc., qui vous contrôlent alors qu'ils viennent de voir que vous, enfin, ils viennent de voir mettre votre ticket dans l'appareil. Et je ne comprends pas très bien le pourquoi. Donc, merci.
Bon. Bon, il y a beaucoup de questions dans la même. Alors, je crois comprendre que vous parlez de la valorisation du risque, de certains risques aujourd'hui, et vous avez raison de dire que c'est un paradoxe. Enfin, du moins, je le vois comme un paradoxe, c'est-à-dire que la demande de protection est incroyablement élevée, et en même temps, l'analyse que je fais de ce phénomène, c'est que je crois que plus une société se protège, plus ses membres sont vulnérables. Et plus elle a besoin de ritualiser ou de se convaincre qu'elle est capable de prendre des risques. Alors, c'est vrai, dans la jeunesse, il y a beaucoup de prise de risque, mais quand on regarde exactement ce que ça veut dire que la prise de risque, vous observerez que c'est une prise qui ne va jamais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a toujours un filet de protection que l'on fait jouer à un moment donné. Ça veut dire que on n'assume pas jusqu'au bout la prise de risque au point de mettre sa vie complètement en danger. Oui. Non, mais attendez. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La prise de risque, effectivement, on valorise la puissance, la vitesse, etc. Mais effectivement, cela se retourne contre ceux qui prennent les risques. Mais c'est vrai que les industriels de l'automobile jouent sur justement le caractère très ludique ou de puissance conféré à une voiture puissance, etc. Et que ce lobby-là est tellement fort que il entre complètement en contradiction avec justement les pouvoirs publics qui, elles, essayent d'avoir des stratégies de diminution justement de ces risques. Alors la question c'est que, mais ce que, où je voulais en arriver, c'est que vous pouvez à la fois vouloir prendre des risques pour vous, ce qui est malheureux c'est qu'on les prend pour les autres, hein, et c'est évidemment là le problème, mais en même temps, où je voulais en arriver, c'est qu'on n'admet pas quelque part, on va retourner la responsabilité contre une ambiance, contre un constructeur, on essaiera de trouver des responsables, ça veut dire qu'on n'assumera pas sa responsabilité jusqu'au bout, à un moment. C'est là où il y a une ambiguïté, une contradiction dans cette survalorisation de la prise des risques aujourd'hui. Alors que dans le passé, ça n'a pas été le cas. Sur le point de l'homogénéisation des populations dans des gated communities. Bon, bah, oui, on peut effectivement toujours vouloir le bonheur dans le ghetto. Hein. Bon, ça, c'est un problème. Le problème, c'est que des populations qui veulent s'homogénéiser et se renfermer pour avoir la paix, en fait, c'est qu'elles sont amenées à exclure. De plus en plus, donc, à exclure tout ce qui ne leur convient pas. Et la question, c'est de savoir jusqu'à quel point avons-nous exclure quoi. Et on peut se demander jusqu'où elles ne vont pas exclure quelque chose qu'elles n'aimeraient pas en elles-mêmes, quoi, si on poussait la logique jusqu'à son absurdité. Non, je pense à Los Angeles, par exemple, où vous avez de plus en plus de communautés qui ont une qualité et qui se rejoignent et qui veulent vivre autour de cette qualité au détriment de toutes les autres, quoi. Dans des espaces sécurisés et complètement privés. La démocratie En Europe, c'est édifié sur le fait qu'on a pu parler dans l'espace public et se confronter de la mixité sociale. Des gens qui n'avaient pas les mêmes idées, pas les mêmes opinions et qui pouvaient vivre. Aujourd'hui, le danger qu'on voit apparaître, c'est que l'espace public est de plus en plus privatisé, non pas par des communautés qui voudraient les privatiser, mais par le fait que l'espace public de la discussion est de plus en plus amoindri. Bon, alors on peut penser que c'est bien ou c'est mal, mon propos n'était pas tout à fait là. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas du bien dans les technologies? Bien sûr, c'est ce que j'ai essayé de dire. Vous savez, c'est un sujet qui est très très difficile parce que on ne peut en fait jamais déconnecter totalement la question de la liberté de la question de la sécurité. C'est ce que j'ai essayé de dire, c'est que ces valeurs étaient assez antinomiques il y a 30 ans. Aujourd'hui, on dit qu'est-ce que c'est qu'une liberté sans sécurité? Oui, mais jusqu'à quel point veut-on la sécurité? Où est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'il y a un consensus sur le moment où on arrête la sécurité? Alors, c'est vrai que je dois donner l'impression d'être un peu partisan dans ma vision de la défense de la liberté qui est... D'ailleurs, je reconnais qu'elle est un peu romantique, hein, cette vision de la liberté, mais finalement, on accède là à notre disposition par rapport à l'emprise des technologies de surveillance à distance, hein, et notamment des extensions sécuritaires de ces technologies d'information et de communication qui sont très très bien en soi et qui ont été un progrès absolument considérable en très peu de temps dans l'histoire de l'humanité. Mais bon, il faut quand même être vigilant. Alors, bon, qu'il y ait des utilisations intelligentes, c'est clair, j'en ai donné d'ailleurs, hein, mais je mettais en garde contre certaines dérives et contre certains dangers.
Deux dernières questions rapides, monsieur.
Oui, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au sujet du brouillage des frontières.
Oui.
Je suis Paul Boutelan de l'Association française des utilisateurs des télécoms. Et je voudrais attirer votre attention sur la complexité de la sécurité de l'information. Je pense que vous êtes évidemment connaisseur dans la matière, mais je voudrais pour l'auditoire parler premièrement des acteurs. Quand on parle de la sécurité des réseaux de télécoms, il y a tellement d'acteurs, il y a des opérateurs, il y a des fournisseurs de services, il y a des installateurs, il y a des fabricants de logiciels, etc. Bon, les acteurs sont nombreux. Deuxièmement, il y a des autorités qui surveillent un peu cette information. Vous avez l'autorité, l'ART, l'autorité de régulation des télécoms, et de l'autre côté, l'autorité qui surveille l'audiovisuel. Et enfin, vous avez l'individu, le résidentiel ou la petite PME que nous représentons, et qui veut assurer la sécurité de son information. Et là, je pense que devant ce problème, il y a tellement d'intervenants, tellement de difficultés de législation, et enfin, le problème lui-même est techniquement relativement difficile. Donc, cette complexité ne doit pas être sous-estimée si l'on veut préserver la liberté de l'individu.
Oui, je suis d'accord avec votre remarque. C'est vrai qu'on aurait pu faire une séance entièrement consacrée à ce sujet en accent sur protection des personnes, des biens, de l'information. J'ai fait une incursion sur l'information, mais vous avez raison. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin, l'information qu'elles détiennent est une ressource et il y a tout un secteur adjacent à la sécurité privée qu'on appelle l'intelligence économique parce qu'on ne parle plus d'espionnage industriel, mais la mise en sécurité de l'information est quelque chose de très très important et les vulnérabilités de l'entreprise sont considérables liées à tous ces opérateurs qui interviennent. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous.
La dernière question, tout en haut, monsieur.
Est-ce que vous pouvez dire un mot de ce qu'on appelle les zones de non-droit et est-ce que le phénomène n'est pas accentué du fait que la tendance, enfin de la part d'une population qui se sent abandonnée, de fuir ces zones de non-droit et d'accentuer la ghettoisation de la part de certaines ethnies, pourquoi ne pas le dire? Et d'autre part, est-ce que vous ne pensez pas que la police est parfois démotivée en raison du laxisme judiciaire, enfin je ne sais pas si c'est le thème aujourd'hui, de traiter de la justice, mais là encore, est-ce que les lois, est-ce que la législation sur les mineurs notamment semble adaptée par exemple, est-ce que l'usage des libérations conditionnelles, est-ce que le sentiment d'impunité ne sont-ils pas les véritables causes? Voilà, enfin, cette vaste question qu'on ne pouvait pas ne pas aborder.
Oui, alors sur les zones de non-droit, moi je n'aime pas trop cette expression, bien qu'elle soit souvent employée par une vulgate journalistique, parce que ça voudrait dire que l'État, incarné par ses différentes polices, aurait démissionné d'une surveillance sur certains territoires urbains qui seraient monopolisés par, vous faites allusion, par des ethnies qui en auraient le contrôle absolu. Je n'y crois pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, les différentes polices sont engagés dans un processus qui est très très difficile de reterritorialisation plus efficace ou plus efficiente par rapport à des découpages antérieurs de leur action, et c'est un processus qui est difficile, hein, où il faut à la fois redécouper des territoires, et ces territoires qu'on a dit de non-droit en réalité sont l'objet d'une sollicitude absolument massive de la part des pouvoirs publics, et ça commence effectivement par une police qui apprend à intervenir à un moment où des pompiers ou des gendarmeries dans les zones périurbaines qui apprennent à intervenir intelligemment plutôt que d'envenimer des conflits sociaux qui sont préexistants et qui sont très, très problématiques. Je ne crois pas personnellement que les pouvoirs publics aient démissionné, donc je ne crois pas qu'il y a des zones de non-droit. Il y a plus d'intelligence dans l'intervention des différentes polices, éventuellement de la négociation avec des leaders qui, effectivement, sont les petits maîtres, voudraient être les petits maîtres chez eux. Alors, ghettoisation, ça c'est les grands mots, il faut aller voir plus... C'est vrai qu'on a des phénomènes de relégation et que ça suscite de la révolte, mais vous savez, les violences urbaines, je pense que ça a déjà été traité ici, sont souvent plutôt l'indicateur pré-politique de la part d'acteurs qui ont le sentiment d'être dépossédés des pouvoirs publics et qui, au fond, s'en prennent aux institutions parce qu'elles ne sont pas en adéquation avec ce qu'elles affichent officiellement, c'est-à-dire leur sollicitude. Alors, la police démotivée, c'est sûr qu'on rencontre de la police démotivée, mais démotivée par quoi ? Est-ce que c'est par le laxisme judiciaire ? Là encore, autre idée reçue, bien sûr, qui trouvera des confirmations. Je connais bien les policiers. Bon, quand on va un petit peu plus au fond des choses, on s'aperçoit que c'est moins simple que ça. Par ailleurs, il faut quand même parler aussi d'une révolution en France, c'est qu'aujourd'hui, la justice aussi est à la reconquête d'un territoire plus affiné que celui, et notamment en cherchant ce qu'on appelle la troisième voie, c'est-à-dire de la médiation pénale, parce que la justice de paix qui existait autrefois avait complètement disparu. Donc on est dans une recherche de proximité sur des populations, et je vous dis, ce sont de l'interministériel à tous les niveaux, quoi. Et en ce moment, on est dans la recherche d'une meilleure coordination entre police, procureurs, préfets, élus, à travers des plans, on en a toute une succession. C'est difficile parce que chaque acteur, si vous voulez, chaque institution avait sa lecture de la délinquance, avait sa solution et traditionnellement avait appris à travailler seul. Aujourd'hui, on voit justement les dégâts engendrés par cette solitude, et les pouvoirs publics doivent apprendre à composer les uns avec les autres. Quand on parle de police de proximité, c'est évident qu'on court droit à l'échec si en même temps il n'y a pas une justice de proximité qui la relaye. C'est bien évident. Mais c'est un apprentissage long, un accouchement difficile.
Frédéric Cocteau, je vous remercie.